If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Salut Martin qui a encore opté pour la peau de mouton. J'ai l'impression que la semaine... Ah oui, nouvelle en plus.
Nouvelle peau de mouton, moi c'est une émission, une peau de mouton maintenant.
C'est bon, il va falloir tenir jusqu'à la fin. Alors au-delà de devoir tenir jusqu'à la fin et d'en acheter une...
Non, je n'achète pas, je loue mes vêtements.
Ah oui, on va en reparler.
Non, mais je loue mes vêtements.
Alors au-delà d'en avoir une nouvelle et de la louer toutes les semaines, ça va être de la supporter... Au mois de juin.
Non, mais non, ce sera terminé. On partira sur autre chose. On partira sur quelque chose de plus simple, de plus léger et qui correspond mieux à la saison.
Comme le mouton, tu te feras tondre en fait.
Exactement. Ouf, exactement, je me ferai tondre. Et oui, Maxime, je loue mes vêtements, figure-toi.
Alors, oui, alors ça, c'est le grand truc de Martin. Martin loue ses vêtements.
Ben voilà. Oui, parce que ça a plusieurs.
Vertus.
Vertus, merci. C'est que déjà, je pollue moins la planète parce que je n'achète pas mes vêtements et en fait c'est une redistribution, voilà.
Ouais,
donc c'est
ouais, mais c'est... le transport c'est
non mais bah le transport c'est le facteur qui vient me
oui mais bon le facteur qu'il soit facteur ou qu'il soit facteur au pompier
et ça me permet de rester au fait de la mode et toujours classe.
Alors,
contrairement à certains
ça,
avec qui je partage cette émission,
je vous laisserai
à moindre
juger.
Coût, à moindre coût, c'est 40 ou 35 ou 40 euros par mois. J'ai 4 4 vêtements et un accessoire et puis voilà.
Alors attends, il y a trop d'infos là. Donc 35 balles, c'est juste que t'es un immense radin?
Bah non, je suis pas radin, c'est juste que j'ai pas tes moyens. Enfin, cela dit, quand je vois ce que tu gagnes, ce que tu portes, Maxime, il y a un petit delta là. Tu pourrais avoir tes postes de dépenses.
deuxième question dont je me souviens plus du tout. Ah oui, explique-nous ce qu'est l'accessoire.
Ah, l'accessoire.
Une petite barrette, un petit.
Non, alors je suis très casquette moi.
Ok.
Ça peut être un porte-carte, ça peut être une montre, ça peut être qu'est-ce que j'ai eu d'autre. Alors, ça peut être un bonnet, une écharpe.
Alors voilà. Le porte-carte, j'ai jamais vu.
Si, bah il est. Je l'ai.
C'est-à-dire que tu dois le rendre après le porte-carte.
Non, lui. Alors non, parce qu'il y a des accessoires que tu. Enfin, il y a même des articles que tu peux acheter.
Ouais.
Moins 50%.
Oui, d'accord. Bon, ça s'appelle de la vente, mais bon.
Non, mais bah non, mais j'en achète très peu. J'en achète deux ou trois par an, alors que loue des.
Ah, mais attends, ça c'est une énorme évolution. Oui. T'as un porte-carte, tu n'as plus ton énorme steak.
Non, j'ai plus mon
Martin
steak.
Martin avait, il était dans le Guinness des records.
Mais oui, parce que j'avais des cartes
de presse
de 2008.
Il avait le portefeuille,
j'avais ma carte d'étudiant
le plus
encore
épais
dedans.
De l'histoire des portefeuilles épais. Et si vous avez vu Pulp Fiction, regardez le portefeuille de Jules Winfield. Je ne vais pas rappeler ce qui est marqué dessus, mais c'était le portefeuille de Martin Moissonnier.
Ouais.
Donc voilà, très grossier personnage. Et un portefeuille, mais vous voyez un Big Mac.
Ouais.
Bah, c'était un Big Mac, c'est le vrai. Big portefeuille.
Et je suis passé à autre chose. Maintenant, j'ai carte vitale, carte de presse, carte de transport
et
carte bleue, c'est tout. Voilà. C'est tout. Il y a juste besoin de ça pour bien vivre. Finalement.
La mort, c'est que c'est la mort du portefeuille.
C'est la mort du portefeuille.
Parce que bientôt, je crois que début d'année, tu peux avoir tes cartes d'identité, pardon pour le gros mot, dans le téléphone bientôt.
Ah oui, non mais il y a plein de choses hein,
qui évoluent.
Ouais, non, qui meurent à petit feu, Maxime. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Il faut avancer. C'est tout ce qui compte.
On avancera. On va parler football comme d'habitude.
Bah,
attends, j'ai une information de dernière minute.
Qu'est-ce qui se passe?
Ah oui, c'est 69 euros par mois, on me dit, ton abonnement.
Attends, c'est quoi ça? Attends, mais ça a augmenté. Mais c'est pas 69 euros
70
par
balles. C'est quoi? C'est du...
Ah, mais moi, je suis sur l'ancien abonnement.
C'est de la marque de luxe.
Bah, moi, j'ai encore regardé sur mon appli bancaire tout à l'heure, parce que j'en ai parlé, c'était 35.
Alors, 70 balles par mois fois 12, ça fait 800 balles de fringues.
Ou alors, c'est augmenté, je m'en suis pas rendu compte. Mais...
Ouais, ça, c'est quand on a de la maille qu'on dit ça.
Je m'en serais rendu compte. Fois 2, je m'en serais rendu compte.
Bon, merci Adrien pour cette info.
C'est 39 balles, je crois. Bon bref, en tout cas si quelqu'un veut s'abonner, j'ai des codes promo tout ça pour me faire gagner, donc venez me chercher Martin Moissonnier sur Twitter si
non, mais
vous
après,
des codes promo.
Là je vais dire une gentillesse, mais vraiment.
Ouais.
L'avantage c'est que moi je peux pas faire ça parce que Martin, je pense qu'il peut mettre à peu près n'importe quoi, tout lui va.
C'est vrai.
Non ça, mais c'est la vérité.
Mais ouais, mais ça c'est quand t'as un physique facile. Ouais.
Non mais ça lui va bien, ouais. Il porte des fois j'ai vu porter des habits absolument dégueulasses.
Bah oui, c'est vrai.
Mais qui lui allait très bien. Ouais. Ça c'est vrai que tout va bien. Donc c'est vrai que le risque est pris. J'irai pas prendre le risque parce que j'imagine quand tu ouvres le truc et
Tu choisis. Tu peux choisir. Soit tu choisis de te faire surprendre, soit tu maîtrises.
Okay.
Ce qu'on te
donc on n'a pas donné de nom et j'espère quand même qu'ils vont te faire une petite ristourne, ça tu leur as fait un peu de plaisir.
J'espère aussi. Il y en a pas 50.
70 balles par mois, merci.
Il y en a peut-être plusieurs mais il y en a pas 50 je crois. Football, Maxime ?
Football, Martin.
Ah, attends que je regarde les sujets.
On va parler des prêts. Là aussi, on va parler un peu de prêts, d'un personnalité, on va dire.
Exactement. Avec le mercato de l'OM, on ne comprend pas trop où ça va, on ne comprend pas trop d'où ça vient et on ne comprend pas trop où ça va.
Si, moi je vois très bien où ça va, mais j'en parlerai après.
Voilà.
On va parler du Paris Saint-Germain et des cas des deux avant-centres, 170 millions pour deux avant-centres. Faut-il relancer Ramos et Colomouani avant la Ligue des Champions ? Est-ce que le PSG peut faire sans eux ?
Et on parlera de l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est déjà la fin du mirage pour le championnat saoudien qui a ramené certaines des plus grandes stars de la planète ? Certains sont déjà revenus. Est-ce que c'est la fin du mirage saoudien ? On démarre, Maxime, avec l'Olympique de Marseille ?
On va démarrer avec l'Olympique de Marseille. Comme à chaque mercato, évidemment, le personnage que vous voyez derrière moi, si vous nous regardez en vidéo, s'appelle Pablo Longoria et il est actif. Depuis le début, il s'est activé sur trois noms, dont un... Le dernier n'est pas encore arrivé, mais il y a un accord. Jean Onana, lui, il est là, il a déjà joué. Ulysses Garcia et Faris Moumbagna. Deux, parce que Onana, je pense que vous connaissiez. Mais les deux derniers, a priori, le grand public ne les connaissait pas trop. Et j'imagine que les supporters marseillais non plus. Quand je vois ces trois noms, Martin, j'ai envie de te poser une question.
Pose-la.
À quoi rime le mercato de l'OM et où va l'OM ?
J'ai beaucoup de mal aussi à... Bon, déjà, il y a plusieurs problèmes là-dedans. Il y a déjà un problème de compétitivité, c'est-à-dire à changer et à faire les chaises musicales tous les 6 mois. Et on l'a vu en début de saison avec l'Olympique de Marseille. Alors, quand ce n'est pas le coach, c'est l'attaquant de pointe. Quand ce n'est pas l'attaquant de pointe, c'est l'arrière-droit. Quand ce n'est pas l'arrière-droit, c'est le milieu défensif, etc., etc. Donc, beaucoup de mal à trouver une direction et surtout, beaucoup de mal à trouver une stabilité, une cohérence dans un collectif. Quand tu bouges tous les 6 mois, comme c'est le cas avec Longoria, on a l'impression que Longoria, il prend ça comme un jeu, presque comme un défi, et qu'il ne peut pas rester sans bouger la moindre oreille sur un mercato. Moi, très honnêtement, je pensais que ce mercato, comme Marseille avait très bien terminé l'année 2023, qu'ils avaient a priori trouvé quelque chose, je pensais qu'ils... Et qu'il y avait assez peu aussi de rumeurs au début de l'hiver, je pensais que ça n'allait pas bouger du côté de l'OM, ou alors très peu. Et là, on n'est même pas mi-janvier, si, on a passé mi-janvier.
Ouais, 19.
Et ça a déjà, et voilà, il y a tout qui part en sucette. Moi, ça me pose déjà d'abord un problème d'un point de vue compétitif, parce que comment tu peux construire une équipe, comment tu peux poursuivre des objectifs avec des joueurs qui restent 6 mois et qui repartent, d'autres qui... on sait très bien qu'il y a des joueurs qui ont besoin de s'adapter, d'autant plus qu'ils recrutent des mecs qui connaissent finalement pas la Ligue 1. Alors, Junior Onana, c'est un mauvais exemple, mais tu as besoin de t'adapter, tu as besoin de connaître un contexte. Le football, c'est pas que le terrain. S'adapter à Marseille, ça prend plus de temps que de s'adapter à d'autres clubs français. Et je pense là que Longoria est pris d'une frénésie qui handicape d'abord l'équipe et ensuite ses résultats.
J'ai l'impression que Longoria a inventé le footballeur jetable, entre guillemets. L'année dernière, c'était Luis Suarez qui arrive en l'attaquant, qui met son doublé pour son premier match, qui disparaît, je crois, au mois d'octobre et qui finit par être vendu. Lodi, cette année, qui remplace Nuno Tavares, qui n'a pas tenu 4 mois, qui est revenu. Alors, pour le coup, là, on peut dire qu'il y a une plus-value, il y a de l'argent fait, OK. Mais bon, le problème, c'est que la direction sportive, on ne la voit pas. Pablo Longoria, pendant longtemps, a eu une aura autour de lui qui fait qu'il trouvait des bons joueurs, les bons coups, etc., que ça fonctionnait bien.
C'est un peu taré.
Et c'était, il faut changer 50% de l'effectif, etc. Et moi, j'entendais, c'est le football moderne. Non, le football moderne, c'est aussi d'avoir de la continuité. À un moment, je le répète, quand vous avez un entraîneur qui vous lâche tous les ans, même quand il est dans une situation de réussite, c'est qu'il y a un problème. Alors évidemment, on sait que Marseille, c'est plus difficile qu'ailleurs. Mais avant, ça a toujours été plus difficile qu'ailleurs. Les entraîneurs restaient quand même s'ils se plantaient après, au moins ils restaient. Là, le problème, c'est qu'ils savent que tout va être démantelé dans les 10 jours qui suivent la saison. Moi, quand je vois ce mercato-là, Jean Onana, OK, il y a un problème avec la CAN, il faut remplir le milieu de terrain. Pourquoi pas ? Mais ça, encore une fois, c'est pas au mois de décembre, que Pablo Longoria doit se rendre compte qu'il a beaucoup de joueurs africains qui vont partir à la CAN. Il peut le voir un peu avant, le prévoir. Ulysses Garcia, il remplace Lodi, il y a un problème à gauche. OK, je le connais pas, peut-être que c'est très bien. Il a 7 sélections en équipe de Suisse. Apparemment, il est plutôt bon, il est plutôt offensif, pas décisif, etc. Très bien, on verra, on jugera sur pièce. En revanche, Faris, Moumbagna. Je vais être honnête, moi je ne sais pas qui c'est. Je pense que personne ne sait qui c'est. Il joue en Norvège, Bodø Glimt, il va arriver. Et surtout, pourquoi ? Encore une fois, je comprends les deux premiers transferts. Il y a un problème à gauche, il y a un problème de terrain, il manque des joueurs. Mais là, donc, il achète un attaquant de plus. On a l'impression que c'est compulsif. Enfin, compulsif, il faut toujours acheter. Ça veut dire quoi de Vitinha ? Qu'est-ce qu'on fait des autres ? Qu'est-ce qu'on fait de Aubameyang, etc. Moi, j'avoue que je ne comprends pas. Et le problème, c'est qu'à un moment, quand on va faire la liste des années Longoria, qu'on va prendre tous les mouvements qui sont je sais pas combien il y a eu de mouvements depuis qu'il est là, on se rendra compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gâchis parce qu'il ne peut pas avoir toujours la bonne pioche. Et au-delà de ça, moi, je vais vous le dire, c'est d'aller chercher ce que fait un peu Lyon d'ailleurs, d'aller chercher des jeunes talents, des prospects, comme on dit. Ben, à un moment, ça dit aussi quelque chose du standing de votre club, tout simplement. Que l'OM ne roule pas sur l'or, ok, mais de tout le temps maintenant aller chercher des joueurs comme ça. Alors on va me dire, oui, mais regarde aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven, par exemple, l'Ajax Amsterdam le fait. Ok, mais l'Ajax, ils y vont déjà, des fois ils sortent quand même des gros joueurs. Et au-delà de ça, ils ont une formation que l'OM n'a pas. Donc là, le risque, c'est d'avoir une équipe de l'OM qui est, on avait déjà cette impression l'année dernière, qui est impersonnelle, en fait, oui. Qui ne colle pas au club. Ouais. Et vu que les joueurs viennent et partent, personne ne s'attache et c'est très très compliqué et vous mettez comme une situation très, quand même, très délicate.
Ouais. Et puis à Marseille, mais je vais revenir sur ce point parce qu'il me semble fondamental, à Marseille, il faut qu'il y ait un lien. Il faut qu'il y ait un lien entre les virages et ceux qui sont présents sur le terrain. Et quand ça marche, c'est justement quand ce lien il est fort. Alors, il n'y a pas besoin qu'il reste. Drogba, il est resté qu'une saison, mais il y avait un lien. Il était identifié. Il arrivait de Guingamp, d'une super saison. Il s'est attaché. Et puis, voilà, quand il y a un attachement comme ça et que tu as ce truc-là où les supporters et l'équipe ne fait qu'un, et ben c'est là où ça fonctionne du côté de Marseille. Là, tu vas recruter des mecs. Mais comment tu veux t'identifier à une équipe dont tu ne connais pas les joueurs qui restent en plus 6 mois? Des fois, tu n'arrives même pas à les identifier sur le terrain. Qui est ce mec, machin? C'est très, très compliqué. Et ça l'est partout, mais je pense que ça l'est fondamentalement à Marseille. Marseille, tu as besoin d'incarnation. Ils se sont séparés en très peu de temps de Mandanda et de Payet. À partir de là, tu avais déjà une équipe qui avait perdu ses deux capitaines, où tu te disais, il va falloir trouver d'autres incarnations, dont d'autres mecs qui sont capables de me faire rêver, et puis aussi qui représentent l'esprit du club, qui sont garants de quelque chose. Là, comment tu vas être garant de quelque chose quand tu restes 6 mois ou quand tu vas recruter un Aubameyang qui a 35 ans et tu te dis, il va pas rester 5 ans. Voilà, moi, c'est aussi quelque chose qui me fait mal quand je vois ce club-là et quand je vois cette équipe-là.
Et la manière de faire, j'y pensais pas, mais Mandanda, il part, il y a un communiqué de 3 lignes, alors que le mec, là, on peut utiliser le terme légende de l'OM, c'est le type qui a joué plus de matchs avec l'OM. Payet, la conf de presse, parlons-en, j'ai pas l'impression que Longoria a été très touché.
On a bien compris qu'il lui mette un coup de pied au cul.
Voilà, c'est ça. C'est le mouvement perpétuel et comme tu le dis, les joueurs viennent. En plus, c'est même pas dire qu'ils peuvent pas s'attacher. C'est-à-dire que je pense que dans l'esprit des supporters, au moins indirectement, ils savent que les types vont partir très vite. Donc on ne sait plus trop.
Mais qui incarne l'OM aujourd'hui, Maxime?
Ah bah oui, c'est compliqué.
Gigot.
Aujourd'hui, là, il y a pas Rongier n'est pas là, c'est Gigot. Mais pourquoi pas à la rigueur? Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que. Enfin, ça va pas. Et la difficulté, c'est de créer une incarnation, de créer un attachement avec cette équipe-là. Et quand je vois aujourd'hui, chez le confrère de l'équipe, qu'ils sont sur Nuno Tavares, non mais la blague.
Ça t'as pas aimé.
Non mais ils pouvaient pas le garder, tout simplement. Non mais en gros, il fait plus l'affaire jusqu'au jour où il y a plus rien, il va refaire l'affaire. Non mais honnêtement, il a vécu sur une image un peu de geek du foot, etc. Très bien, il a fait le job, il a fait des bons trucs. Et moi, je maintiens que un président qui voit ses entraîneurs partir chaque année ou vouloir partir chaque année à la fin d'un exercice réussi, ça n'est pas normal. Ça me prouve qu'il y a un problème dans le club.
Allez, on va passer au deuxième sujet. On va parler Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani, Ramos, deux joueurs, Gonzalo Ramos, deux joueurs qui ont du mal à prendre le pouvoir du côté du Paris Saint-Germain. Là, non seulement ils ne le prennent pas, mais en plus, là, ils sont rétrogradés sur le banc. Paris, qui va jouer face à Orléans ce week-end en Coupe de France, est-ce que c'est l'occasion de relancer ces deux joueurs? Alors, Ramos,
virus.
Un virus.
Donc, a priori, non.
Il est malade, donc a priori, non. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là? Qu'est-ce qui se passe avec Kolo Muani et Ramos qui ont coûté des millions, des dizaines de millions? Une bonne grosse centaine.
170. Alors maintenant, on lit 155. Oui. Il y a eu une baisse, je ne sais pas. Mais en tout cas, même si c'était 155, c'est très cher.
Mais qu'est-ce qu'on fait de ces deux hommes-là, Maxime Dupuis?
Alors, ce qu'il y a derrière ça, c'est le repositionnement de Kylian Mbappé qui vient combler un vide absolu. Parce que ce qui a été fait, en gros, depuis le début de saison, le plan de départ, c'était Mbappé à gauche, Dembélé à droite, Kolo Muani dans l'axe. Moi, j'ai toujours été un peu... j'ai toujours été méfiant parce que je trouvais que c'est 2-3 joueurs qui avaient des qualités un peu semblables. Je trouvais que mettre Gonzalo Ramos dans l'axe avait un peu plus de sens. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a un autre profil, un joueur de surface, un joueur qui va pouvoir aller gratter des ballons dans les 6 mètres, dans les 7 mètres, un peu plus renard. Ou sinon, de jouer avec un faux neuf, Asensio. Après tout, si vous avez un faux neuf comme Asensio, alors que vous avez Mbappé, vous n'avez pas trop de problèmes pour marquer des buts. tout a basculé parce qu'en fait, ni Kolo Muani ni Gonçalo Ramos n'ont fait le job, même si je trouve encore une fois qu'on enterre vite Kolo Muani, mais Gonçalo Ramos qui a eu moins sa chance. Voilà. Ouais. Pour mettre Mbappé dans l'axe, et on a vu même Mbappé des fois qui jouait en position un peu plus reculée. Moi, je pense qu'à terme, ce n'est pas une bonne idée parce que même si Mbappé, encore une fois, est capable de jouer à peu près partout de par son talent et de par ce qu'il peut apporter, enfin, jusqu'à preuve du contraire, sa meilleure position, c'est côté gauche. Quand il part, quand il peut prendre la profondeur, quand il rentre sur son pied droit et qu'il peut taper pour les poteaux. Et que voilà, en fait, là, il cache une misère. Et moi, je serais Luis Enrique, je ne suis pas Luis Enrique, mais j'essaierais quand même très sérieusement de les relancer. Et par exemple, le match d'Orléans, bon, Ramos, a priori, ce n'est pas bon. Mais Kolo Muani, pourquoi pas ? Parce que, bah, au moins lui redonner confiance. Alors évidemment, ce n'est pas en marquant des buts contre des petites équipes, ou présumait-elle, qu'on est sûr de changer une trajectoire. Mais n'empêche que gagner un peu de confiance, ça pourrait aider avant la Real Sociedad.
Ce qui est sûr, c'est que là, on a deux énormes échecs quand même du mercato parisien. Et ça devient une habitude quand on recrute des joueurs à ces prix-là à Paris, que ça soit des échecs. Ramos, c'est 4 buts depuis le début de saison. Kolo Muani, c'est 6 buts sous les couleurs du Paris Saint-Germain. C'est des joueurs qui, quand même, ont joué. Kolo Muani, il en est à 20 matchs avec le Paris Saint-Germain. Quand on a ces attentes-là, quand on est l'avant-centre du PSG, ben on doit marquer plus de 6 buts. Ça, c'est une certitude. Donc là, on a un problème. Moi, je pense, contrairement à toi, je pense que Mbappé dans l'axe, bah déjà, il prouve que ça fonctionne. Mbappé, il prouve que c'est peut-être là, parce que effectivement, il comble un vide, il cache la misère, et comme Kolo Muani et Ramos ne font pas l'affaire, le meilleur avançant du Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, bah, c'est Kylian Mbappé. Moi, je pense que face à la Real Sociedad, Paris devra montrer ses meilleures armes, et la meilleure arme du PSG, c'est quand même Kylian Mbappé en pointe. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille changer ça. Alors, face à Orléans, l'enjeu, il est minime parce que qui marque ou pas Kolo Muani, Paris s'en sortira, mais même en pantoufles, je pense. Donc, mais je ne pense pas qu'il faille, d'ici la Real Sociedad, repartir sur un nouveau système, remettre des choses en place. Là, il me semble que Luis Enrique, sur les derniers matchs, a trouvé quand même quelque chose d'intéressant. Il me semble que Paris montre assez clairement en régime. Je ne crois pas avoir vu Paris aussi cohérent quand Kolo Muani ou Ramos étaient sur le terrain. Et donc, s'il faut les sacrifier, eh ben, il faut les sacrifier. Et tant pis qu'ils écoutaient une blinde. Et pis si Mbappé s'en va dans 6 mois et que tu te retrouves avec ces deux-là. Moi, je pense qu'il faut parer au plus pressé. Et le meilleur avançant du PSG, bah oui, il n'y a pas photo, hein, c'est Mbappé.
Et si le PSG s'inquiétait pour l'argent, ça serait. Alors, on entend des fois, oui, attention, ils ont une petite. Ils n'ont que 60 millions de budget pour recruter. Bon, bref, peu importe. Mais n'empêche que, alors, au-delà de la Real Sociedad, c'est vrai qu'il y a la suite. C'est-à-dire qu'encore une fois, le Paris Saint-Germain n'est pas à plaindre et pourra recruter. Mais imaginez que Kylian Mbappé s'en aille.
Ouais.
Ils vont chercher qui ? Si ça reste un échec sur toute la saison, alors ça peut marcher une saison sur l'autre, mais je pense que c'est pas le genre de club à donner sa chance après une saison ratée. Qu'est-ce que ferait le PSG l'été prochain ? Quelle star en attaque sur le... On a entendu Nasser Al-Khelaifi dire le PSG c'est fini les stars. Oui, là il va être servi. Hein. Ouais. Si Mbappé s'en va.
Non, mais là ils ont. Pour le coup, je pense qu'ils n'auront pas le choix.
Pour les faire jouer ?
Non, d'aller recruter une giga star.
Ah, mais qui ?
Bah, un Salah qui est en fin de contrat dans un an. Non, mais voilà, tu me dis qui, je te donne des noms, je te dis pas s'ils vont le faire ou pas. Mais
là, aujourd'hui, il n'y a qu'une méga star au poste d'avant-centre, attaquant.
C'est Haaland.
C'est Haaland.
Oui, mais Haaland, il est intouchable. Haaland,
Kane est intouchable.
Il a signé l'année dernière au Bayern, c'est pour ça que je te dis que ça là. Voilà, mais moi je veux, pour être clair, je ne veux pas condamner Ramos ou Kolo Muani. Ils sont arrivés il y a 6 mois, il ne faut jamais tirer des conclusions définitives. Exactement. Oui, voilà.
Un an, voilà. Alors c'est long, mais un an.
Ouais, il faut jamais tirer de conclusions. Et il faut se souvenir que, bah, on va prendre Rai hein, comme exemple, hein, qui est un des plus grands joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Sa première année, c'était une truffe totale.
Ouais.
Et après, c'est devenu un des plus grands joueurs de l'histoire du PSG. Donc surtout, ne pas condamner ces deux-là. Mais je pense que moi, Paris est dans une urgence vis-à-vis du parcours en Ligue des Champions. Et que s'il faut se mettre ces deux-là sur le banc jusqu'à la fin de saison, mais aller loin en Ligue des Champions, bah voilà, voilà. L'horreur viendra sans doute au Paris Saint-Germain. Ce sont des très bons joueurs. C'est juste que là, ils traversent une vraie crise de confiance. Ils n'ont pas trouvé leur place sur le terrain. Luis Enrique n'a pas su les manager au mieux pour qu'ils donnent la pleine possession de leurs moyens. Donc pour l'instant, bah, direction le blanc.
Après, je ne suis pas sûr qu'ils aient été recrutés pour de bonnes raisons, notamment
aussi.
L'un d'entre
eux. Et oui, mais bien sûr,
et
ça, c'est sûr.
C'est ça aussi qui pose problème. Mais en tout cas, moi, je pense que Luis Enrique a intérêt à essayer de les relancer. Le championnat, de toute façon, il est gagné. La Coupe de France, elle n'est pas gagnée, mais sur un tour face à Orléans, peut se permettre de faire tourner. Donc moi, avant la Real Sociedad, je serais lui. J'essaierai quand même de les remettre dans le droit chemin d'ici les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et voir au-delà.
Allez Maxime, on va terminer cette émission avec le mirage saoudien. Est-ce que c'est la fin de ce mirage puisque il y a déjà Jordan Anderson qui est revenu du côté de l'Ajax Amsterdam. Il y a Karim Benzema qui se pose des questions. Maxime, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça nous dit de ce championnat-là?
Bah, je ne sais pas ce que ça nous dit, mais ça me dit que je ne suis pas tellement surpris. Alors, je m'attendais à une vague de retour. Alors, pour l'instant, ce n'est pas une vague non plus. Hein. Mais plutôt l'été. Parce que voilà, au bout d'un an, voilà, en plus, ça permet de toucher le chèque pendant un an, vu la taille du chèque. Voilà. Jordan Anderson, il symbolise assez bien quand même le péril des joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite. Et presque lui, c'est encore plus fort parce que ça s'est très mal passé, son départ d'Angleterre. Il y avait un engagement contre l'homophobie, pour les droits de l'homme, etc., qu'il a piétiné clairement en allant en Arabie Saoudite. Quand il est revenu avec l'équipe nationale, ça s'est très mal passé parce que les Anglais ne sont pas du genre à rigoler avec ça. Et le voilà maintenant à l'Ajax Amsterdam. Alors l'Ajax Amsterdam, c'est très bien, c'est un très grand club historique, mais il a peut-être gagné du temps à rester en Angleterre. Alors le chèque aurait été moins gros, mais c'est une erreur. Voilà, il pourra dire ce qu'il veut, j'ose espérer qu'il dira, il nous dira comme tous les autres, c'est pas un échec, j'ai beaucoup appris. Oui, tu as beaucoup gagné surtout. Mais n'empêche qu'il se retrouve à l'Ajax, son image est complètement dégradée, et il s'est retrouvé dans un championnat qui n'est pas au niveau escompté. Et la meilleure preuve de ça, c'est ce qu'on lisait dans l'équipe au sujet de Karim Benzema. Alors, il a été en retard à l'entraînement. A priori, c'était les conditions climatiques sur l'île Maurice qui l'empêchaient de revenir à l'heure à l'entraînement en Arabie Saoudite. On sait aussi apparemment qu'il est très très étonné du niveau. Bah oui, mais je ne sais pas s'il est... Non, mais est-ce qu'il peut vraiment être étonné du niveau? Il savait très bien, mais le type a joué au Real Madrid, a été biberonné au niveau depuis 15 ans. Près de 20 ans, il se retrouve dans un championnat qui était, on va dire, bâti de toutes pièces. Il ne suffit pas d'acheter des joueurs pour faire un grand championnat.
Bah, c'est simple, quand tu recrutes 15-20 stars dans un championnat de 18 équipes, bah non, tu ne fais pas un grand championnat. Parce que la base, ce n'est pas comme le championnat de France où tu formes à tour de bras, en Italie, en Allemagne. Voilà, c'est un championnat amateur avec un faible niveau. Tu as 18 équipes, donc si tu recrutes 11 stars, il faut que tu recrutes 191 gigastars, c'est impossible. Il y en a voilà, une grosse vingtaine qui est arrivée l'été dernier. Bah, ça ne suffit pas. Ça fait du spectacle, ça fait des beaux noms derrière les maillots, mais ça ne fait pas un grand championnat. Donc je ne comprends pas pourquoi il tombe de l'arbre soudainement. Il fallait s'attendre à ça. Après, effectivement, il y a un souci pour ces joueurs-là, c'est qu'il faut se défaire d'un contrat mirifique, exceptionnel. Énorme. Donc pour Mané, Mahrez, Koulibaly, Mendy, Benzema, Kanté, effectivement, ça va être compliqué de partir parce qu'il faut se libérer d'engagements qui sont faramineux. Donc ces gens-là, ces joueurs-là, j'espère qu'ils avaient fait une croix sur leur carrière sportive. Parce que pour revenir, bon courage.
Bon courage. Et on sait qu'il y a Seko Fofana aussi qui se pose des questions. Et en fait, la punition pour ces joueurs-là, c'est qu'ils vont revenir, déclassés et dans un club moindre.
C'est-à-dire alors, que Fofana sera peut-être l'exception parce qu'il arrivait de Lens.
On verra. Au-dessus de Lens, ça sera... il pouvait viser...
Ça je suis d'accord avec toi.
Un top club, ou au moins, pas un top club, un top 25 européen. On verra
PSG,
où il ira.
Si,
il pouvait viser le PSG. Voilà.
Aujourd'hui,
il s'est retrouvé là-bas. Alors, je ne sais pas si c'est un choix personnel, si on lui a dit, écoute, il y a de la maille, donc il faut y aller, comme ça on prend aussi. Mais en tout cas, déjà à la base, c'était du gâchis. Parce que c'est comme quand il y a eu les départs en Chine. C'est-à-dire que c'est des joueurs que vous ne voyez plus au très haut niveau. Et c'est marrant, c'est pas un mirage, c'est toujours le mirage de l'argent. C'est-à-dire qu'ils savent que ça ne va pas se développer comme ça, artificiellement. Il faut du temps. Mais heureusement d'ailleurs que ça ne s'est pas créé toute pièce. Sinon, ce serait terrible. Et là, c'est des joueurs qui vont venir déclasser. Si Benzema revenait en Europe, je ne sais pas où il irait. Le Real, évidemment, non, c'est pas genre.
On a vaguement parlé de Manchester United, mais...
J'y crois pas tellement.
Mais aussi, il y a une vraie question, excuse-moi de te couper Maxime, mais sur les niveaux de ces joueurs-là. Il y a des joueurs qui jouent pendant 6 mois dans un championnat amateur, qu'est-ce qu'ils valent aujourd'hui? C'est une vraie question sur la CAN aussi, que vaut le Sénégal, qu'on en a parlé la semaine dernière, mais ces joueurs qui sont partis 6 mois aujourd'hui, on sait qu'il y a une émulation quand tu joues la Ligue des Champions, quand tu joues les premiers rôles en Première Ligue, forcément, il y a une émulation là aujourd'hui. Que valent ces joueurs-là? Et pour revenir sur les championnats, moi, depuis que je suis gamin, il y a eu le Japon, il y a eu la MLS, il y a eu la Chine, évidemment, il y a eu
l'Arabie Saoudite,
le Qatar,
maintenant
il y a l'Arabie Saoudite, donc ça fait 5 championnats. Quand on regarde où sont ces 5 championnats aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un qui est au niveau d'un, même d'une Ligue 1 ou même d'un championnat, je ne sais pas, de ce standing-là, même des Pays-Bas, etc. Non, non. Parce que, comme tu le disais très bien, ça ne se crée pas artificiellement. Et surtout pas en 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans.
Oui, parce que s'il suffisait d'acheter des joueurs, c'est comme un peu quand vous faites une équipe. S'il suffisait d'acheter des grands joueurs, entre guillemets, pour gagner... des grosses compètes, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut aussi une alchimie. Là, ça a été monté de toutes pièces. C'est un championnat qui est créé, il faut le dire. C'est dans l'optique de la Coupe du Monde 2034 qui aura lieu, sauf immense surprise que je ne vois pas venir, ou descendre du FBI, peut-être la FIFA, en Arabie Saoudite. Donc voilà, il y a tout un, comment dire, un cheminement pour amener le football à être plus populaire en Arabie Saoudite, pour développer le championnat et pour arriver en 2034 à une Coupe du Monde qui serait portée aussi par ce que les Saoudiens voient toutes les semaines dans leur stade. Je suis plus inquiet pour l'été prochain pour l'Arabie Saoudite que pour cet hiver, parce que je pense qu'il y en a... De toute façon, en plus, dites-vous que là où le calcul n'est pas bon aussi, c'est que si vous faites un sacrifice, on vous file 200, Benzema, on les file 200 millions par an, je crois que c'est ça. Une année, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du contrat. Même un joueur comme Seko Fofana qui a gagné beaucoup plus. Mais il faut s'en libérer. Et la difficulté va peut-être être là parce que justement, est-ce que les Saoudiens, les dirigeants saoudiens ont la même ouverture sur le marché des transferts que des dirigeants européens? Ce sera à voir, parce que si demain les Saoudiens qui sont c'est open la banque, je sais plus comment dire, bon, bref,
open bar,
peut-être qu'ils vont se dire bon Benzema on le garde quand même, voilà.
Ouais, et puis ils voudront pas vendre, les Saoudiens.
Non.
Ça sert à quoi de vendre Benzema? Eux, leur intérêt c'est de l'avoir, donc enfin bon bref, c'est un sacré sac de nœuds. On se donne rendez-vous cet été, Maxime, pour on se revoit avant quand même, Maxime, ou pas?
Oui, sans doute la semaine prochaine.
Sans doute?
Ouais.
Non mais fais une promesse.
La semaine prochaine, alors.
Voilà, très bien. On remercie Adrien aux manettes.
Il ne faut jamais insulter l'avenir. Ce n'est pas ce qui se passe. Je ne vais pas nous porter la poisse, mais ça se trouve, je sors, je me fais renverser.
Arrête, arrête. Touche du bois, fais des trucs, je sais pas, là.
Je touche du bois, tout le temps pendant cette émission. Ouais. D'ailleurs, ça doit énerver Adrien, parce que des fois, on tape.
Voilà,
et quand on entend l'émission, on entend. On se croirait dans une chanson de Philippe Laville.
Et c'est numéro 1 dans sa vie, on est fou comme on est musicien. Et ça va, ça vient. On se donne rendez-vous la semaine prochaine?
Ouais, la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
Dis pas merci à Adrien et à Quentin.
À Quentin, merci Quentin, voilà.
Voilà, quand même, c'est vraiment chaud. D'ailleurs, Quentin, qui vient quand faire sa chronique?
Ah oui, il est censé nous faire une petite chronique, ouais. Mais j'ai l'impression.
Parce qu'on a une super nouveauté, mais il faudrait qu'un jour il daigne venir en studio.
Et Maxime, je croyais que tu voulais terminer cette émission pour pas être dans les bouchons. Donc, parce que vous croyez que Maxime, c'est l'éditorial pur, que c'est un génie.
Ouais,
que
le mec... là, je
non,
vais
non,
dire,
non, en fait,
c'est mort.
Ouais, les gars, faut aller, on y va, parce que là, je veux pas terminer dans les bouchons. Il nous a parlé avec Adrien, c'était à la limite du soutenable.
Ça fait 10 heures que je suis ici.
Voilà. Donc voilà, tu vas pouvoir. Ça fait 10 heures, et alors?
T'aimes ton métier?
Et voilà.
Donc,
voilà.
Ah oui, j'aime mon métier.
Et ça fera 11.
Mais ciao, ciao. Arriver chez moi plus vite.
Ciao,
salut.
Ciao.
Salut.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.